Noé, ou Noach, comme on l'appelle en hébreu, est le fondateur d'une nouvelle humanité. En effet, dans le texte de la paracha précédente, dans Bereshit, on a pu voir l'éventualité qui se profilait d'une humanité en décadence. La Torah nous raconte que Dieu n'est pas content de l'homme qu'il a créé, il est même dit de manière un peu anthropomorphique qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Et donc ce que la Torah nous fait comprendre dans l'histoire du déluge, dont Noé est le héros principal, c'est que l'humanité peut arriver à une situation catastrophique où tout est quasiment, pratiquement tout est détruit. C'est-à-dire que alors que la Torah dans son ensemble nous donne un message d'optimisme, l'atmosphère de la Torah est une atmosphère optimiste, eh bien la Torah nous dit oui, mais cet optimisme n'est pas béat, ce n'est pas de la naïveté. On pourrait se dire tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, la Torah nous dit c'est optimiste, mais ça passe par des catastrophes. C'est-à-dire l'éventualité d'une extermination totale de l'humanité pour des raisons morales est possible. Mais cependant, à travers ces catastrophes, il est possible de réussir. Or c'est ça que nous raconte l'histoire donc de l'arche de Noé, où ce qui reste de l'humanité, ce qui peut être récupéré de l'humanité et du monde animal, va être récupéré, va être sauvé. C'est là que la Torah nous dit qu'il y a en fait une certaine responsabilité de Noach. En effet, un des maîtres du chassidisme, Rabbi Pinchas de Koretz, disait qu'il faut faire attention quand il y a des tzadikim, quand il y a des justes parfaits dans la génération. Parce que quand il y a un juste parfait, cela met en accusation ceux qui ne suivent pas sa voie. Et avec un peu d'humour, Rabbi Pinchas de Koretz disait, vous voyez bien, depuis Adam jusqu'à Noé, il y a eu 10 générations et tout s'est passé comme il faut. Est arrivé un juste Noé et le monde est détruit par le déluge. Cela veut donc dire que les tzadikim sont un peu dangereux pour leur génération. Alors cela voudrait-il dire qu'il vaut mieux ne pas évoluer? Non, certainement pas. Il faut évoluer moralement, mais une des fonctions, on pourrait dire, un des rôles du tzaddik, c'est justement de veiller à ce que sa manière d'être juste entraîne les autres avec lui et qu'il ne soit pas, lui, une source d'accusation envers les autres. Il doit prier pour sa génération. Or, ça explique une certaine réticence des sages du Talmud et du Midrash par rapport au personnage de Noé, qui est certainement un juste parfait, mais justement, il est peut-être plus que parfait, il est trop parfait, et donc il va entraîner finalement la destruction de l'humanité. Cependant, il va quand même réussir à sauver sa descendance. Le problème, c'est de savoir au nom de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il peut échapper à la catastrophe? Parce que un grand problème se pose, c'est que quand il y a une catastrophe naturelle, eh bien, ceux qui sont sauvés, ce ne sont pas forcément les justes, ce sont ceux qui ont une bouée ou bien qui savent nager. Or, lui, Noé, il a sa grande bouée, l'arche, et au nom de quoi? Eh bien, une analyse du texte, entre autres relevée par Manitou, le Rav Ashkenazi, est que Noé est sauvé non pas par son propre mérite, mais par le mérite de ce qu'il porte en lui. Il est le porteur de la lignée abrahamique. Or, c'est par le mérite d'être l'ancêtre d'Abraham, ce qui veut donc dire qu'en fait, Noé était déjà d'une certaine manière un Abraham potentiel, en tout cas un Abraham dans son être, c'est ça qui va, disons, rétroactivement sauver Noé. Il est sauvé par l'avenir et non pas par le passé. Et il y a un déluge. Alors le déluge est présenté dans la Torah comme ayant duré, alors ça c'est pas très clair, 40 jours, 40 nuits, ou bien une année entière. Le texte de la Torah est ambivalent. Si on analyse attentivement le texte, on se rend compte que tout se passait comme si à l'extérieur de l'arche, une année entière s'était passée, c'est un cycle naturel, une année, mais tout se passe comme si dans l'arche elle-même, il ne s'était passé que 40 jours et 40 nuits. Or, 40 jours et 40 nuits, nous savons ce que cela veut dire. C'est le temps nécessaire pour recevoir la Torah. C'est le temps moral. Une année, c'est le temps naturel. 40 jours, c'est le temps moral nécessaire pour recevoir la Torah. Or, quelle est la Torah que va recevoir Noé. Eh bien, il va recevoir ce qu'on appelle les sept lois noachides. C'est-à-dire qu'il va recevoir le projet des commandements du Créateur envers l'humanité en général. C'est la première alliance. Il est significatif de voir que le texte de la Torah, qui est un texte qui est l'alliance de Dieu avec son peuple Israël, nous parle d'une alliance antérieure au don de la Torah qui a été voulue par le Créateur de l'humanité. Or, cette alliance n'a jamais été rompue. Elle reste le projet de l'humanité et la responsabilité de la transmission de cette alliance aux nations incombe à Israël. Ce qui vous explique pourquoi il y a tant de mouvements aujourd'hui, dont je fais partie, qui transmettent le message noachide, c'est-à-dire des descendants de Noé, aux nations du monde. Et lorsque le déluge est fini, que Noé va sortir de l'arche avec sa famille, c'est alors que se fonde une nouvelle manière d'être homme qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est l'organisation des humains en groupe. Or là, la Torah nous parle de deux sortes de groupes. Ce qu'elle appelle les familles et ce qu'elle va appeler les nations. Et quand la Torah nous parle des familles, Mishpechot Ha'adama, les familles de la terre, elle nous dit que ce qui caractérise les groupes humains, c'est le langage, Lashon. Lashon, qui veut dire également l'organe de la langue, qui est à l'intérieur de la bouche, qui représente l'intériorité de la culture humaine, on pourrait dire la culture. Contrairement au mot Safa, qui veut dire la lèvre, qui veut dire également une langue, mais qui est la communication extérieure. On parle à partir de ses lèvres vers l'extérieur. C'est ça donc la différence entre Lashon et Safa, mais ça veut dire que les premiers groupes humains étaient des groupes qui étaient unis entre eux par un contenu intérieur. Et puis après, ces groupes humains deviennent des nations. En hébreu, goyim, en hébreu biblique, ça veut dire des nations. Or, les nations sont définies par des territoires, arzotam, par leur pays. À partir du moment où la définition du groupe humain devient la nation, l'État, défini donc par le territoire, c'est alors que va s'établir l'idée de frontière. Et la frontière va établir la différence entre celui qui appartient à la nation et l'étranger qui est, disons, potentiellement une menace. Or, ce qui se passe, c'est que entre les familles, la situation normative, c'est la paix, exceptionnellement la guerre. Entre les nations, c'est en général la guerre, exceptionnellement la paix. Et donc, c'est là que va s'établir une humanité dans laquelle la violence politique risque de tout détruire à nouveau. Alors que la violence individuelle a été la cause du déluge, là nous avons le danger de la violence politique. Et ça commence par cet événement que la Torah appelle la tour de Babel. La tour de Babel, c'est cette tentative de l'humanité de se détacher de la référence au Créateur, et c'est là que va prendre une importance démesurée l'identité d'une nation qui va essayer de s'imposer à une autre nation. Or, il est surprenant de voir que c'est justement là, sur cet arrière-plan-là, que va apparaître la famille d'Abraham. Abraham est présenté dans la Torah comme étant la réaction à ce danger de la violence politique. Alors, on pourrait très bien dire que le projet d'Abraham serait, ce qu'ont voulu certains, abolir le politique. Or, c'est une erreur. Abolir le politique, c'est refuser l'évolution de l'humanité. Le projet d'Abraham sera justement de faire le tikkun, la réparation du politique, la sanctification de la vie politique. Alors que contrairement à ce qu'ont voulu certains des descendants d'Abraham, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien, dans le projet d'Abraham, la Torah nous dit, et ça c'est dans la paracha à venir, la paracha de Lech Lecha, « Ve'esra l'Egoï Gadol, je ferai de toi une grande nation, et non pas une grande religion. » Et cette grande nation aura pour fonction d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Shalom.